le magazine des Nations Unies.
Des droits de l'homme causant la mort de 20 personnes, 102 blessés lors des manifestations électorales et post-électorales en RDC. C'est en tout cas ce que révèle le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNDH indexe les forces de sécurité et de défense congolaises. La FAO en première ligne dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition en RDC. Un nouveau cadre de programmation pays a été décliné cette semaine. L'agence révèle que plus de 13 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire. De nouveaux représentants de la FAO en RDC et notre invité. Enfin, alerte sur la distribution des moustiquaires sous standard aux normes internationales. Le programme national de lutte contre le paludisme prend des précautions pour épargner la population. Le directeur de ce programme nous en dira plus dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies qui vous est présenté par Tina Salama. Et nous commençons tout de suite par la situation des droits de l'homme en RDC. Au moins 141 violations de droits de l'homme causant la mort de 20 personnes, 102 blessés, lors des manifestations électorales et post-électorales en République démocratique du Congo. C'est ce que révèle le rapport de janvier 2019 du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, publié ce mercredi à la conférence bi-hebdomadaire des Nations Unies. Le Bureau conjoint précise que ces manifestations ont été violemment réprimées par les forces de sécurité et de défense à travers le pays. L'essentiel de ce rapport dans ce condensé de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Sur l'ensemble du territoire national, les agents de l'État, à savoir l'ANER, les FARDC et la police nationale congolaise, ont été responsables de 73% des violations documentées, dont les exécutions extrajudiciaires de 47 personnes, tandis que 27% d'atteintes aux droits humains ont été perpétrées par les combattants de groupes armés. Autre détail, le nombre de victimes de violences sexuelles liées au conflit a baissé, mais reste toujours préoccupant. Et comme en 2018, la province du Nord Kivu demeure la plus affectée avec 187 violations, elle est suivie par le Kasaï et le Sud Kivu avec respectivement 62 et 40 violations. Toujours en janvier 2019, le bureau conjoint a documenté 102 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien avec l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire national, soit un nombre stable par rapport au mois précédent. En période électorale et post-électorale, par exemple, au moins 141 violations ont occasionné la mort de plus de 20 personnes, comme le confirme ici le directeur du bureau conjoint.
Il faut noter aussi que l'annonce des résultats prévue le 6 janvier repoussée au 10 a généré des rumeurs et des manifestations pacifiques de célébration de victoire. Celles-ci ont été violemment réprimées par les forces de sécurité et de défense, en particulier au Kasaï et dans la province de la Tchopo. Il en va de même d'autres manifestations qui ont suivi les résultats annoncés le 10 et contestés par le candidat Fayulu, notamment en Équateur, dans le Haut-Katanga, à Kinshasa, dans le Kwilu et également dans la province du Tanganyika. Mon bureau a documenté 141 violations des droits de l'homme en lien avec le processus électoral en janvier, causant la mort d'au moins 20 personnes, dont 3 femmes et 3 enfants, 62 blessés, dont 14 femmes et 2 enfants, 371 personnes arrêtées arbitrairement, dont au moins 19 femmes et 50 enfants.
En janvier 2019, poursuit le rapport, le bureau conjoint des Nations Unies a continué d'appuyer les juridictions militaires et civiles dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Au moins 4 militaires des FARDC ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC. Le bureau conjoint a organisé au moins 15 activités de renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques sur les droits de l'homme, parfois conjointement avec d'autres sections de la MONUSCO. Enfin, dans le cadre de son programme de protection, le bureau a traité sur l'ensemble du territoire national 30 cas de menaces et violations des droits de l'homme à l'encontre de 50 personnes.
Nous lisons également, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a annoncé jeudi dernier le nouveau cadre de programmation pays 2013-2019 avec le gouvernement congolais au cours d'un café de presse à Kinshasa. Ce cadre de programmation comprend une trentaine de projets dans les domaines de la sécurisation alimentaire, de la résilience communautaire en temps de crise et des changements climatiques. Aristide Ongoné Obame, le nouveau représentant de la FAO en RDC, décline les axes prioritaires de ce programme. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous sommes actuellement en négociation avec le gouvernement pour mettre en œuvre un nouveau cadre qui va commencer en 2019, je pense juste en 2023. Alors la vision, effectivement, c'est de mettre en œuvre les axes prioritaires qui sont en train de se dégager. Les axes prioritaires, ça va être quoi? Ça va être vraiment cette histoire de sécurité alimentaire et la nutrition. Il faut améliorer ça parce que vous savez, les études, l'IPC, le 16e cycle montre qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 13 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Et certains sont même dans des phases critiques. C'est énorme. Ça nous interpelle. Et c'est pour cela que la sécurité alimentaire va être une de nos priorités dans le prochain cadre de programmation pays. La RDC est confrontée également aux crises aiguës. De toutes sortes, la résilience de ces populations va être un problème très important pour nous. La RDC est également confrontée, comme la plupart des pays, au changement climatique. Ça va être aussi un des points importants sur lesquels la FAO va accompagner le gouvernement.
Le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP confirme l'existence des millions de moustiquaires de marque Dawa Athena de sous-standard et hors normes de l'OMS en RDC. Il affirme les avoir consignés pour examen en laboratoire. Ceci après l'alerte faite par le Fonds mondial et relayée par le collectif des organisations de la société civile pour la santé et la lutte contre le paludisme sur la distribution de ces moustiquaires peu imprégnés d'insecticides. Le docteur Eric Mukomena, directeur du PNLP, précise que ces moustiquaires ne présente aucun danger pour la santé de la population et leur présence n'est circonscrite que dans quelques provinces du pays. Le docteur Mukona, dans cet extrait d'interview choisi par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Ce que je dois préciser, c'est que ce n'est pas sur toute l'étendue de la République. Ce que je peux dire, c'est que ces moustiquaires sont bel et bien au Congo, c'est fait appel aux moustiquaires Dawa, dans quelques provinces du pays. Au niveau mondial, les PMI, l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme, eux-mêmes qui ont acheté pour nous, ont fait des tests dans des lots qui vont dans d'autres pays. Ils ont trouvé que les seuils étaient inférieurs et nous ont alertés. Et cela a été trouvé ailleurs dans des lots qui ont été commandés en même temps que la République démocratique du Congo. Et donc la collaboration est bonne, nous avons l'information. Nous sommes professionnels, ce que nous avons fait, c'est bloquer ces moustiquaires dans des CDR. CDR, ça veut dire centrale de distribution régionale de médicaments, y compris la moustiquaire imprégnée. Et c'est comme ça que nous avons fait une réunion extraordinaire. À l'issue de cette réunion-là, les échantillons vont être prélevés, les numéros des lots de ces moustiquaires concernés, et ces échantillons vont être examinés ici à Kinshasa pendant 2 semaines. L'INRB va participer à cette expertise, ainsi que l'Institut, donc le département de médecine tropicale de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa. Après 3 semaines, nous déciderons de ce que nous allons faire.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le chef de la composante police de la MONUSCO, le général Awale Abdounassir, vient de clôturer une mission de 4 jours à Beni. Il s'exprime sur l'appui de la police de la MONUSCO dans la riposte contre Ebola, mais aussi l'organisation, fin mars, des élections à Beni et Butembo, Nord Kivu. Le général Awale est interrogé ici par Martial Papi Moukeba.
Général Awale, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fin d'une mission de quelques jours à Beni. Qu'est-ce qui justifiait votre présence dans la région?
Je suis venu d'abord voir les officiers de la police des Nations Unies. En premier, ensuite, comme vous savez, il y a un travail qui s'est fait sur Ebola, mais également j'ai eu l'occasion de discuter avec la responsable de la PNC sur la question sécuritaire ici à Beni. Donc c'est les 3 points où j'ai eu à travailler durant mon séjour ici à Beni.
Parlant exactement de la riposte contre Ebola dans les zones touchées par cette épidémie, au Nord Kivu et à Ituri, à quel niveau intervient la composante police de la MONUSCO dans la riposte?
D'abord, la police MONUSCO a déjà participé des campagnes contre Ebola à Bandaka et Likati il y a quelques années. Sur ici, dans le Nord Kivu et particulièrement dans Beni et sa région, la police MONUSCO a essentiellement travaillé sur les questions de suivi des contacts, essentiellement, mais également la police MONUSCO a travaillé et aidé les différentes parties à augmenter le niveau de vigilance au niveau des points d'entrée. Donc on a développé des stratégies partagées, on a fait le suivi et il y a des officiers qui travaillent sur ces questions-là actuellement. Comme je vous ai dit, on a développé une stratégie qu'on a partagé avec le ministre de la Santé, avec les différents partenaires. Et bien entendu, cette stratégie a été mise en œuvre par le ministère de la Santé. Donc au niveau de chaque point d'entrée, il y a le ministère de la Santé, la PNC, d'autres structures. Mais l'idée, c'était d'avoir un registre et de pouvoir enregistrer les gens qui passent sur ce point-là, d'avoir leur contact et de vérifier s'ils n'ont pas une température élevée. Donc ce travail-là est accompagné par la police MINUSCO. Comme j'ai à vous dire aussi, la police MINUSCO accompagne au niveau de la coordination centrale sur le suivi des contacts dans les villes. Donc nous conseillons, nous orientons pour retrouver les personnes perdues de vue ou jamais vues.
Parlons de la sécurité. Les élections vont se tenir à la fin du mois de mars dans les régions de Beni, Butembo, Nord Kivu, mais également à Yumbi. Quel serait l'apport de la police de la MINUSCO pour que les élections se déroulent dans les calmes, dans ces zones?
D'abord, je pense que tout le monde se réjouit que l'organisation des élections s'est passée dans le calme en décembre dernier. Et nous espérons aussi que ça va se passer dans le calme dans cette partie du territoire. La police MINUSCO, particulièrement ceux qui sont déployés ici, ont eu pour mandat d'accompagner la police, la PNC, mais particulièrement de mieux le former. Donc il y a un programme de formation qui sera lancé très rapidement pour mieux former la PNC dans le cadre de ces élections-là. Particulièrement à Beni et à Butembo, vous savez qu'à Yumbi, on n'a pas de moyens sur place, donc nous sera très difficile de faire le même travail à Yumbi.
Et aujourd'hui, comment vous évaluez la collaboration entre la police de la MINUSCO et la police nationale congolaise sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo?
Alors, elle est excellente, elle a toujours été excellente, elle continue d'être excellente. Nous apportons notre expertise et notre soutien à la PNC, quel que soit là où nous sommes déployés. Nous ne sommes pas déployés partout, donc on ne peut pas parler au nom de sur l'ensemble du territoire, mais là où nous sommes déployés, nous faisons le maximum pour appuyer la police nationale congolaise. Et c'est pour cette raison-là que je suis venu aussi pour honorer nos casques bleus, nos policiers qui travaillent dans ce cadre-là. Et pour hier, on a organisé une grande cérémonie de remise de médailles pour les officiers de la police des Nations Unies au titre des services rendus pour l'excellent travail qu'ils font ici dans cette partie du territoire. Donc cette cérémonie a eu lieu hier, elle s'est très bien passée, en présence des autorités bien entendu congolaises ici sur place. On s'est beaucoup réjoui de cette grande cérémonie pour honorer la contribution de la police des Nations Unies. Je pense que le travail de la police nationale congolaise n'est pas fini ici. Donc nous, on s'inscrit dans ce cadre-là pour appuyer la police nationale congolaise. Certes, les élections vont bientôt totalement tourner la page d'élection après les élections ici, dans cette partie du territoire, mais les priorités demeurent la formation et la professionnalisation de la police nationale congolaise. Et on s'inscrit dans ce schéma-là, défini par le gouvernement, pour appuyer et continuer d'apporter notre expertise auprès de la police nationale congolaise.
Général Awale, je rappelle que vous êtes chef de la composante police de la MINUSCO. Radio Okapi vous dit merci.
Merci à vous.
Le programme alimentaire mondial PAM a procédé lundi dernier à l'enregistrement de 201 enfants réfugiés burundais, aussi de Mulongwe, au sud des Baraka, au sud Kivu. Il s'agit des enfants qui sont nés en 2018 ayant atteint 6 mois de vie au moment de leur enregistrement. Ces enfants sont ajoutés au nombre des ménages et bénéficieront désormais de tous les droits reconnus à la personne réfugiée, en l'occurrence la ration alimentaire. Cette fois-ci, nous sommes au Nord Kivu. La MINUSCO a remis, durant le mois de février, 3 projets à impact rapide d'un montant de 90 000 dollars américains à la prison centrale de Goma et à l'établissement de garde d'État et enfants de Goma et GEE. Ces projets incluent la formation des détenus sur l'installation des kits scolaires dans les habitations, la réhabilitation de 4 pavillons qui avaient été incendiés et la construction des miradors de cet établissement pénitentiaire. La section appui à la justice de la mission a, de son côté, soutenu la deuxième audience foraine d'homologation qui a traité 40 dossiers de conflits fonciers, des conflits récurrents dans le territoire de Miragongo, au nord de Goma. Enfin, la ville de Paris sera le 25 avril prochain la capitale de la lutte contre le paludisme. Ceci à l'occasion de la célébration officielle de cette journée. Cette rencontre sera organisée par le partenariat RBM en partenariat avec le gouvernement français, avec comme objectif renforcer la dynamique internationale pour mettre fin au paludisme, mais aussi intensifier l'engagement des pays francophones impaludés. Le thème retenu pour la journée 2019, Zéro palu, je m'engage, vise donc à redynamiser le mouvement général vers un monde sans paludisme, une maladie évitable et curable qui continue de tuer un enfant toutes les 2 minutes et menace la moitié de la population mondiale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a annoncé ce jeudi un nouveau cadre de programmation pays avec le gouvernement congolais au cours d'un café de presse à Kinshasa. Aristide Ongone Mbame, le nouveau représentant de la FAO en RDC, s'entretient sur le sujet avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur le représentant, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez d'arriver en RDC. Quelle est votre vision pour les années à venir en République démocratique du Congo?
Je n'ai pas de vision personnelle. La vision que j'ai, c'est celle de mon organisation. Alors, l'organisation a un mandat d'accompagner les États membres des gouvernements à libérer ce monde de la faim, renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, lutter contre la pauvreté rurale. Ça, c'est notre mandat. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous allons faire en RDC, effectivement, nous allons accompagner ce pays à regarder en face les grands défis qui se posent, qui sont face à ce pays. Je parlerai de l'insécurité alimentaire. La dernière évaluation de l'insécurité alimentaire montre que nous avons un peu plus de 13 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Ça, c'est un grand défi. Donc, nous allons accompagner ce gouvernement à lutter contre ce fléau. Secondo, nous allons regarder ce qu'on peut faire pour toutes les populations qui sont face aux différentes crises dont fait face la RDC. Et nous allons également accompagner ce pays à voir dans quelle mesure il peut devenir progressivement résilient aux effets du changement climatique.
Là, vous déclinez toutes les grandes actions que vous allez mener. Alors, votre programme avec le gouvernement pour la période 2019-2023 comprend trois grandes priorités que vous venez de citer. En quoi consiste, par exemple, l'insécurité alimentaire et comment vous allez vous y prendre?
Bon, de manière globale, pour être simple, on est en insécurité alimentaire quand on n'arrive pas à accéder à une alimentation suffisante et saine. Ça peut être un problème de disponibilité, ça peut être un problème d'accessibilité. L'insécurité alimentaire revêt aussi un autre aspect, c'est l'aspect de la qualité de ce que vous mangez. Vous pouvez effectivement croire qu'en remplissant le ventre, pour parler simplement, vous êtes en sécurité alimentaire, mais non, tout dépend de ce que vous consommez et comment vous le consommez. Ce sont tous ces aspects-là qui définissent un peu ce problème de sécurité alimentaire. Donc, dans un premier temps, il faut aider la RDC à produire suffisamment, à produire les aliments qui sont nécessaires à la bonne alimentation, à équilibrer de la population. Et il faut aider la RDC à rendre disponible, même si on produit, si cet aliment n'est pas disponible, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure comme des marchés, là où les gens peuvent valablement vendre de manière suffisante. Ce sont tous ces aspects, il faut accompagner le gouvernement à trouver des solutions à ces problèmes.
Oui, il faut trouver des solutions à ces problèmes. Et parmi les problèmes que vous avez évoqués, même lors de café de presse, vous avez parlé des changements climatiques. En quoi les changements climatiques constituent-ils vraiment un défi pour la République démocratique du Congo?
Alors, le changement climatique, c'est un dérèglement qui fait en sorte que tout ce qui va, je veux parler spécifiquement du domaine agricole, tout ce qui concourt à la production agricole est complètement déréglé. Si vous commencez par regarder les précipitations, le régime des pluies a complètement changé, ou vous n'avez plus suffisamment de pluie, et on le remarque un peu partout en Afrique, il pleut moins, la durée de la saison des pluies est de plus en plus courte, la durée de la saison sèche est beaucoup plus longue, et vous savez que l'eau est essentielle. Quand il n'y a pas suffisamment d'eau, effectivement, nous ne pouvons pas produire suffisamment. Alors, ce changement climatique qui a un impact sur la ressource eau a, bien entendu, vous pouvez le comprendre aisément, un impact négatif sur la production agricole.
Mais on peut dire que la RDC contient 47% de la forêt de l'Afrique. Est-ce que là, les changements climatiques peuvent être aussi accentués comme dans d'autres pays du monde et notamment dans notre pays africain?
Si vous regardez tous les pays sur le globe qui sont sur cette zone, ces pays, c'est des pays on peut dire qu'ils reçoivent les plus grandes précipitations. Et c'est pourquoi vous avez dans ces pays les forêts équatoriales, c'est-à-dire les forêts les plus denses du monde. Plus on s'éloigne de l'équateur, on va vers les tropiques, les pluies ont tendance à se raréfier. Ça, c'est un phénomène global. Mais ce phénomène est en train de s'accentuer un peu partout. À vol d'oiseau, hein, quand vous quittez Kinshasa par avion, vous remarquez bien qu'il n'y a plus de forêt autour de Kinshasa. La forêt s'est progressivement éloignée de la ville et si on n'y fait rien, ce phénomène va continuer. Alors, il y a aussi les problèmes d'énergie. Ces problèmes d'énergie sont aussi liés au changement climatique. Ce n'est pas seulement un phénomène qui ne concerne que la RDC, mais la RDC fait partie. Et c'est pour cela que dans le domaine des ressources naturelles, nous accompagnons aussi également le pays. Nous avons des projets qui sont là pour faire l'inventaire forestier, pour qu'à un temps T, nous soyons capables de dire au gouvernement, voilà votre couvert végétal, il est à tel niveau, voilà les zones qui sont complètement dégradées, voilà les zones qui sont en train d'être dégradées, et là, il faut absolument prendre des mesures, et c'est un phénomène, si on y prend garde dès maintenant, qui va s'accentuer.
Effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire par rapport à cette dégradation des forêts, c'est qu'il faut prendre des mesures. Actuellement, il faut d'abord faire le constat. Le constat, on est en train de le faire avec le gouvernement. À partir de ce moment-là, il faut pouvoir prendre des mesures. La première mesure, à notre avis, c'est d'essayer de voir comment on peut orienter les populations vers d'autres sources d'énergie pour faire la cuisine pour le bois de chauffe. Il y a aussi la possibilité de voir dans quelle mesure on peut progressivement reboiser, récupérer des zones qui sont complètement dégradées aujourd'hui. Nous pouvons aussi regarder dans l'agroforesterie, parce qu'on ne coupe pas le bois que pour se chauffer, pour faire la cuisine. On coupe également le bois pour dégager l'espace et faire l'agriculture. Ces activités agricoles sont aussi un phénomène qui participe à la dégradation. Voilà. Donc, une mesure, c'est de voir dans quelle possibilité il est possible d'aller beaucoup plus vers des formes d'agriculture durable, de l'agriculture intensive.
Revenons à l'agriculture, c'est votre domaine de prédilection. Vous l'avez dit, monsieur le représentant, la RDC a un potentiel agricole peut-être le plus important d'Afrique. Cependant, vous avez souligné aussi qu'au moins 13 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Comment expliquer ces paradoxes? Et ensuite, vous qui êtes les conseillers du gouvernement en matière d'agriculture, quels conseils pouvez-vous donner au gouvernement pour arriver quand même à l'autosuffisance alimentaire dans ces pays?
Ce pays, la RDC, a le plus grand potentiel en matière de production agricole au niveau de l'Afrique. Alors, ce potentiel, aujourd'hui, soit il n'est pas du tout utilisé, soit là où il est utilisé, il n'est pas utilisé à bon escient. Il faut avoir un certain nombre de paramètres, de critères qui nous permettent d'arriver à une bonne production agricole sans avoir un impact négatif sur l'environnement. Produire plus et ne pas dégrader l'environnement. Je pense que c'est ça le challenge, le défi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire différemment. Nous devons avoir des semences améliorées. Qu'est-ce que ça veut dire? Une semence améliorée, c'est une semence qui a une grande productivité, même là où toutes les conditions ne sont pas remplies. Donc nous devons nous adapter. Et comment nous adapter? Avoir des nouvelles variétés, qui sont des variétés à cycle court, pour s'adapter à cette saison des pluies qui se raccourcit. Voilà une notion tout à fait facile à expliquer de semences améliorées. Améliorées par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, à une saison de pluie qui est beaucoup plus courte. Des semences améliorées, nous devons aussi regarder au niveau des techniques culturales. Il y a la semence, ça c'est l'intrant. Il y a les techniques culturales, ça c'est la technologie qu'il faut apporter. Avoir des structures qui sont bien formées. L'autre aspect, c'est les moyens de travail. Est-ce que les gens qui sont chargés de la vulgarisation ont tout ce qu'il faut pour bien accompagner les paysans, les producteurs? Après, ça ne s'arrête pas là. On peut réussir à bien produire, c'est-à-dire à produire suffisamment. Ce que vous arrivez à produire, vous le produisez suffisamment, en bonne qualité, et que vous soyez capable d'écouler ça là où on en a besoin. Que vous soyez aussi capable de conserver quand le marché n'est pas favorable.
que vous soyez capable de transformer ça pour faire de la valeur ajoutée. C'est tout ça qui fait la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, telle qu'elle n'est pas complète, structurée complète, on aura du mal à atteindre la sécurité alimentaire qu'on veut.
Un dernier mot, vis-à-vis peut-être du gouvernement, vis-à-vis de la population congolaise et qui vous entend maintenant, de tous les acteurs du secteur agricole en République démocratique du Congo.
Alors, si j'ai quelque chose à dire, la première chose, c'est que ce pays est un pays formidable. Naturellement, ce pays a tout eu. Et ce pays a un avenir. Mais cet avenir ne se fera qu'avec sa population. Nous avons besoin que les gens se mettent ensemble pour travailler. Nous avons besoin qu'il y ait moins de crises. Et si on a moins de crises, vous allez voir que ce pays peut rapidement décoller. Parce qu'il a tout le potentiel. Il n'y a pas de raison que ce pays ne décolle pas. Surtout dans ce secteur de sécurité alimentaire.
Il n'y a pas de raison que la RDC ne décolle pas sur le plan purement agricole, vous l'avez souligné. Et Monsieur Aristide Ogon Obam, je vous remercie.
Je vous remercie également.
Ebola, il en a été question la semaine dernière à Goma, au Nord Kivu, au cours de la réunion qui a regroupé une cinquantaine d'acteurs impliqués dans la riposte contre cette épidémie, réunion présidée par le ministre de la Santé. Il faut dire que l'équipe de riposte est confrontée aux nombreux obstacles, notamment la densité et la mobilité de la population et l'insécurité, mais aussi la résistance communautaire. Le ministre de la Santé, qui a présidé ces travaux, appelle tous les acteurs à se mobiliser pour contourner toutes les lacunes. Docteur Oli Ilunga est au micro de Sifa Maguru.
Malheureusement, par rapport à Ebola, il y a énormément d'idées fausses. Il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont impliqués, de guérisseurs qui sont impliqués et qui prétendent guérir Ebola. Je crois qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun pasteur qui peut guérir Ebola. Pour vous donner un exemple, en Afrique de l'Ouest, tous les marabouts qui ont prétendu guérir Ebola sont eux-mêmes morts d'Ebola. Donc, le vaccin n'est pas un vaccin expérimental. C'est un vaccin qui a démontré son efficacité. Et sans le vaccin, ce vaccin a permis d'éviter des dizaines de milliers de cas. Donc, Ebola est une maladie mortelle, extrêmement contagieuse, qui est bien plus dangereuse que les problèmes de sécurité. En 6 mois, il y a eu plus de 500 morts d'Ebola. Il n'y a pas eu 500 morts pour les problèmes sécuritaires. Donc on ne doit pas faire d'amalgame et il faut vraiment que tout le monde contribue à passer ce message dans la population.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quelle est la situation actuelle dans le territoire de Yumbi quelques mois après les violences interethniques qui ont émaillé cette partie du pays? C'est en tout cas la question posée au cours de la conférence Bi-Hebdo du 27 février dernier. Vous suivrez la réponse d'Abdulaziz Thioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Oui, très rapidement, c'est Jean-Pierre Elali, Ikoko de Radio Okapi. Je voudrais revenir sur la situation à Yumbi. Je sais, c'est la question que je pose à monsieur le directeur du bureau conjoint. Il y a une mission MONUSCO bureau conjoint qui s'est rendue dernièrement sur place. Je voudrais savoir maintenant quelle est la situation sur le plan humanitaire et peut-être sécuritaire aussi. Et deuxièmement, je voudrais savoir si l'enquête qui a été initiée par les RDC, le bureau conjoint, y a été associé en y apportant son soutien.
Merci Elali. Je pense que certains parmi vos confrères ont été avec nous à Yumbi. Et ont pu voir de leurs propres yeux la situation qui règne à Yumbi. Nous y avions déployé une mission d'enquête qui a séjourné pour une dizaine de jours et qui a recueilli des informations. Il s'agissait d'établir les faits et de recueillir des informations un peu plus précises sur les allégations graves de violation des droits de l'homme. Disons, pour être prudent, sur la situation de violence qui a prévalu dans le territoire de Yumbi. Nous avons trouvé une ville fantôme, hein. Je pense que vos collègues qui ont fait le voyage peuvent en témoigner, une ville pratiquement à moitié détruite, avec toutes les institutions désertées par ses habitants. Comme on le sait, beaucoup étaient dans les îlots à l'intérieur du fleuve ou de l'autre côté de la frontière ou vers d'autres villes telles que Bolobo, Inongo et certains ici à Kinshasa. La situation est extrêmement, extrêmement sérieuse. Il y a eu d'autres missions qui ont suivi. Une mission d'évaluation dans le cadre de la préparation des élections qui a été là il y a environ une semaine. Là, nous n'y avons pas pris part. Nous avons déjà un rapport d'enquête qui va être rendu public la semaine prochaine. Il est dans le circuit de consultation avec le gouvernement. Il a été adressé, envoyé au gouvernement aujourd'hui pour commentaire. Et le rapport sera rendu public la semaine prochaine.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Voilà, juste pour vous signaler qu'un ce dimanche 3 mars, le monde célèbre la journée mondiale de la vie sauvage. Et le 8 mars prochain, c'est la journée internationale de la femme. Et voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Bob Lindou, à la réalisation, reportage et coordination Jean-Pierre et Lali Coco, sous la supervision de Martin Sebojangwe. À bientôt sur Radio Capi, portez-vous bien, ciao.